Nous sommes en train d'étudier le livre de la Genèse. Et la dernière fois, nous avons lu le chapitre 2. Le chapitre 2 où l'auteur, après avoir parlé de l'ensemble de la création au chapitre 1, est revenu donc dans ce chapitre sur la création de l'être humain, la création de l'homme et de la femme, à qui Dieu a donné un corps tiré de la poussière de la terre, et à qui il a soufflé le souffle de vie. Nous avons vu aussi la dernière fois que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait dans le jardin de l'homme, il a fait en vue aussi du bien-être de l'être humain. Et en créant Adam et Ève, Dieu leur a donné la liberté de choisir soit de rester attachés à leur Créateur, soit de se détourner de lui. Ça peut paraître un peu bizarre, mais Dieu leur a donné ce choix. Dieu ne voulait pas un homme robot, il voulait un homme et une femme qui choisissent de rester avec le Créateur ou de se détourner de lui. Et aujourd'hui, je vous propose de passer au chapitre 3. Et cette fois-ci, au lieu de lire tout le chapitre, nous allons juste lire les premiers 7 versets de ce chapitre. Donc, ce chapitre 3 est la suite de cette section consacrée à l'être humain qui a commencé au chapitre 2. Et ce chapitre 3, je dirais, est très important. Il est vraiment fondamental pour comprendre la situation actuelle de l'homme et de la création par rapport au Créateur. Le message de ce chapitre est essentiel à la compréhension de l'évangile que nous annonçons et que nous écoutons ici chaque dimanche, à l'évangile que nous trouvons dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle d'un bouleversement qui est intervenu dans la relation entre l'être humain et Dieu le Créateur, tout au début, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'entrée du péché dans le monde. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons lire donc les 7 premiers versets de ce chapitre. Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis, « Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-elle réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit des arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux, tous les deux, s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Voilà, même si le mot « péché » n'est pas utilisé dans ce passage pour y définir ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit bien évidemment de l'entrée du péché dans le cœur de l'être humain. L'apôtre Paul fait référence à ce récit, à cet événement dans Romains chapitre 5, et il définit ce qui s'est passé en utilisant des mots très clairs et très forts. Il parle de péché, de transgression, de faute, d'offense et de désobéissance. Le mot péché désigne tout cela dans la Bible. Il désigne tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, nous dit la Bible. Il désigne tout ce qui se fait à côté du but fixé par Dieu, à côté du plan de Dieu, ce plan merveilleux qu'il a fixé pour l'humanité. Or, c'est bien, bel et bien cela qui est arrivé ce jour-là. L'homme a péché, il est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. L'homme a raté le but fixé par son Créateur. il a rejeté, il a transgressé la loi divine. Au chapitre 2, verset 17, Dieu avait donné cette loi à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ordre, on ne peut plus clair, n'est-ce pas? Dieu a donné un ordre et une certaine connaissance à l'homme. Le jour, tu pourras manger de tout ce que tu veux, mais pas de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Dieu a fixé des limites à sa créature et nous l'avons dit la dernière fois, il l'a fait pour son bien. Dieu savait pourquoi il fallait fixer cette limite. Or, malgré cela, la femme a mangé du fruit interdit et elle en a également donné à son mari qui était là auprès d'elle, nous dit le texte. Ce fut effectivement un acte de désobéissance, un acte de rébellion, un acte d'insoumission à leur Créateur, un rejet de la loi divine, un acte qui allait avoir des conséquences terribles sur l'humanité tout entière, des conséquences qu'on vit, qu'on voit encore aujourd'hui. Des conséquences donc non seulement pour Adam et Ève, mais pour toute sa descendance, pour nous et pour tous ceux qui vont venir encore. Des conséquences non seulement pour l'humanité tout entière, mais des conséquences aussi pour l'ensemble de la création, parce que l'apôtre Paul nous dit que même la création gémit, n'est-ce pas, des douleurs d'enfantement. Et aujourd'hui, si nous voulons comprendre l'évangile tel qu'il nous est présenté dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cet épisode-là et sur la notion biblique du péché. Je dis bien la notion biblique de péché, non pas la notion de la société, n'est-ce pas, des uns et des autres, parce que souvent, ce n'est pas la même chose. Nous devons être au clair sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans le jardin d'Éden. Nous devons être au clair sur cette notion, ce concept de péché. Car si nous n'avons pas une idée claire de ce qu'est le péché, selon la Bible, nous aurons du mal à comprendre l'Évangile, tout simplement. Nous aurons du mal à comprendre pourquoi la Bible dit que Jésus est le sauveur du monde? Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons du mal à comprendre pourquoi la Bible, pourquoi il fallait que Jésus meure sur la croix? Mais pourquoi faire? Nous aurions du mal à comprendre pourquoi l'Évangile parle de la grâce de Dieu et du pardon qu'il veut bien offrir aux hommes. Nous aurons du mal à comprendre pourquoi la Bible nous incite à vivre une vie de sainteté, une vie conforme à la volonté de Dieu, et ainsi de suite pour tout le reste. Et puisque la parole de Dieu affirme que nous sommes tous pécheurs, et là il n'y a pas de doute, la parole de Dieu l'affirme clairement, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et puisque nous sommes pécheurs par nature, alors nous devons savoir absolument, n'est-ce pas, ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi cela peut aboutir surtout? Quelles sont les conséquences de nos péchés? Voilà pourquoi le récit de ce matin est fondamental pour la compréhension de l'Évangile. Il est vraiment d'une grande utilité parce qu'il nous aide à comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au début avec nos ancêtres Adam et Ève. Et il nous aide à comprendre aussi le remède que Dieu a trouvé pour solutionner ce problème. Alors il faut dire que ce qui complique les choses quand on parle du péché, c'est que nous avons souvent tendance à esquiver le sujet, n'est-ce pas? Et nous essayons aussi de trouver des euphémismes pour parler du péché. Le mot péché ne fait pas plaisir, on n'aime pas trop l'entendre. Ou alors nous essayons de minimiser la gravité du péché, en tout cas de nos péchés. N'est-ce pas? Des péchés des autres, ça je ne sais pas. Mais de nos péchés, nous avons tendance à minimiser, n'est-ce pas? Ou alors, nous essayons de redéfinir le péché à notre manière, surtout pour alléger nos mauvaises consciences, n'est-ce pas? Et nous permettre de vivre souvent librement à notre guise. Ou alors encore, on essaye de mettre l'accent sur certains péchés, sur certains types de péchés. Et ça dépend de nos sociétés. Ici en Occident, avec notre tradition catholique très forte, on met souvent l'accent sur les péchés d'ordre sexuel, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que la Bible ne condamne pas ces péchés et qu'ils ne sont pas graves. Ils sont graves, bien sûr, la Bible le dit clairement. Mais nous oublions souvent d'autres péchés comme le mensonge, la calomnie, l'avarice, l'orgueil, l'amour de l'argent. Et la Bible parle souvent de ce péché grave, l'amour de l'argent, n'est-ce pas, le matérialisme. Cette tendance est au cœur de ce que c'est le péché lui-même. Alors, revenons à notre texte. Que s'est-il réellement passé ce jour-là dans le jardin d'Éden? Le verset 1 dit « Le serpent était le plus avisé, dans notre traduction, le plus rusé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. » La première question, qui est ce serpent-là? Qui est ce serpent ou qui se cache derrière ce serpent du jardin d'Éden? Alors, nous voyons tout de suite que et avec l'aide des autres textes, surtout du Nouveau Testament, que le serpent est le médium, n'est-ce pas, que Satan utilise pour séduire Adam et Ève. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'identifie à Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, l'adversaire. Dans d'autres passages, la Bible parle de lui comme étant le tentateur. Donc on peut dire que le serpent du jardin d'Éden, qui a tenté d'abord la femme et ensuite l'homme, n'est-ce pas, c'était en réalité le diable lui-même. Il a pris un corps de serpent pour tromper Adam et Ève. Comme toute créature de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu a tout créé, on peut dire que le diable est une créature de Dieu. Le diable est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et en tant que créature, il n'est pas un être tout-puissant. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est une créature de Dieu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la Bible nous dit de résister au diable, alors que parfois, certains chrétiens ont peur du diable. Résister au diable, c'est ce que la Bible nous dit. Résister au diable, parce qu'il n'est pas tout-puissant. C'est Dieu qui est tout-puissant. Et la Bible dit que le destin de cet être rebelle est donc soumis à la volonté de Dieu. Alors, je trouve encourageant de le savoir, n'est-ce pas ? Encourageant de savoir donc ce que la Bible dit sur cet être, même si elle ne dit pas tout. C'est encourageant de savoir qu'il n'est pas tout-puissant et que Dieu n'est pas l'auteur du mal, parce que la Bible nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors, mais si Dieu n'est pas l'auteur du mal et si Dieu a créé le diable, on se pose la question, d'où vient le mal alors? D'où vient le mal? Et comment cela se fait-il qu'une créature de Dieu, bonne, merveilleuse, parce que le texte nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon, est-il devenu cet être terrible qu'est le diable? Comment le mal a-t-il pu germer dans son cœur, dans le cœur de cet esprit céleste? Si j'avais une réponse, je vous la donnerais. Si quelqu'un a une réponse, il peut la donner. Mais on le sait bien, c'est un mystère, n'est-ce pas? La Bible ne nous dit pas tout. La Bible nous dit des choses que nous pouvons comprendre, la Bible nous dit ce que nous devons savoir, mais la Bible ne nous dit pas tout. C'est là un mystère, on ne sait pas. Et notre passage de ce matin ne répond pas non plus à cette question difficile. Il raconte tout simplement ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden, le serpent qui a tenté Adam et Ève au point de les faire chuter. La Bible ne nous donne aucune explication donc sur l'origine du mal. Le mal commence avec ces tentations-là, et donc c'est tout ce que nous savons. Mais à propos de cette question, c'est parfois bien d'aller voir ce que les théologiens disent aussi, n'est-ce pas? Le professeur Henri Plocher dit, je cite, que le surgissement du mal doit rester pour nous le mystère opaque, dit-il, le mystère opaque, l'énigme insoluble, l'écharde dans la chair de la raison. Et un peu plus loin, il dit ceci, on ne peut pas comprendre le mal comme mal, mais on peut comprendre qu'on ne peut pas comprendre. On peut comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Il faut quand même dire que certains commentateurs bibliques pense que les textes d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28 font allusion à la chute de Satan. Dans le premier texte, donc Ésaïe 14, le roi de Babylone est assimilé à un astre brillant tombé du ciel parce qu'il voulait se rendre semblable à Dieu. Et dans le deuxième texte, Ézéchiel 28, le roi de Tyr est présenté comme un chérubin protecteur aux ailes déployées, placé sur la montagne sainte de l'Éternel, chérubin intègre dans ses voies, jusqu'au jour où l'iniquité s'est retrouvée en lui, devenu arrogant à cause de sa beauté. Alors, c'est description pourrait donc s'appliquer à Satan, cet être resplendissant qui est tombé par orgueil et par présomption. Ceci dit, le Nouveau Testament n'interprète pas, ne donne pas une interprétation de ces textes, et donc la question demeure toujours, qui est cet être, n'est-ce pas, et comment se fait-il qu'il est tombé? Donc nous ne savons pas, nous ne pouvons pas donner une réponse parce que la Bible ne la donne pas. Comment le diable est devenu ce qu'il est, cet être terrible, n'est-ce pas? Mais la Bible affirme qu'il est l'ennemi de Dieu, qu'il est devenu l'ennemi de Dieu et qu'il s'attaque à sa personne, parce que ce texte-là nous montre que le diable s'attaque non seulement à l'homme, à l'être humain, mais à la personne de Dieu. Comment le fait-il? On le voit au verset 1, il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas aucun des fruits des arbres du jardin? » C'est très subtil. Avant de séduire, il cherche d'abord à semer le doute, n'est-ce pas, dans l'esprit d'Ève, sur la parole de Dieu. Oui, il insinue le doute dans son esprit. Il invite Ève à juger Dieu, à juger Dieu, à juger ce que Dieu a dit, à se mettre en position de juge de Dieu. La créature qui se met en position de juger le Créateur. C'est une tentation qui nous guette tous, n'est-ce pas? Depuis ce jour-là, l'apôtre Paul dit, mais qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour juger Dieu? On voit aussi qu'il ne dit pas les choses comme elles ont été dites par Dieu, à l'homme et à la femme. Il recourt à l'exagération, n'est-ce pas? Et pas seulement à l'exagération, il déforme même les paroles de Dieu, parce que Dieu n'a rien dit de la sorte. Ce que Dieu avait dit se trouve au chapitre 2, verset 16, nous l'avons cité tout à l'heure, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous avons vu la dernière fois que Dieu a donné cet ordre à l'homme pour qu'il jouisse librement d'une certaine liberté, en connaissance de cause, avec une seule exception, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour ne pas mourir. Or, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déformer les paroles de Dieu afin de présenter Dieu comme un trouble fait, comme un Dieu qui n'est pas si généreux que ça. Un Dieu qui prive sa créature de jouir des belles choses qu'il a créées. Comme si on montrait un bonbon à un enfant, n'est-ce pas? Et on ne lui donnait pas. Ensuite, on voit qu'Ève répond en corrigeant aussi les propos de Satan. Mais en même temps, elle rajoute les paroles, quelques paroles que le Seigneur n'a pas dites. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Là, rajoutez un petit peu, n'est-ce pas? Or, nous savons bien que, en ce qui concerne la parole de Dieu, il vaut mieux pas de rajouter, il vaut mieux de les garder telles qu'elles, n'est-ce pas? La parole de Dieu est une autorité, il vaut mieux de la garder telle qu'elle. Et parfois, nous avons tendance aussi, même dans nos églises, n'est-ce pas, à rajouter. La tactique du diable est très subtile et très dangereuse. Car on voit qu'il utilise le mensonge Et non seulement le mensonge, mais il mélange le vrai et le faux. Et là, c'est terrible, n'est-ce pas? Quand il y a une part de vérité et une part de mensonge, c'est terrible. Il mélange le vrai et le faux. Oui, aux yeux d'Adam et Ève, leurs yeux vont s'ouvrir, bien sûr, mais la mort s'ensuivra. Et comme Dieu l'avait dit, comme Dieu l'avait prédit, mais le diable ne le dit pas. Il le nie même, vous ne mourrez pas. Dieu est en train de mentir, vous ne mourrez pas. On sait bien que les mensonges les plus efficaces sont ceux qui contiennent une part de vérité. Et le diable sait très bien manier à merveille, n'est-ce pas, ce mélange, le vrai et le faux. Finalement, quand on regarde de près ce texte, on voit que c'est l'honnêteté de Dieu qui est défiée ici, dans ce passage. C'est l'honnêteté de Dieu qui est défiée et mise en cause par ce message et par cette tactique, cette méthode, n'est-ce pas, de dire les choses. Le diable fait de Dieu un menteur et il invite Ève à croire à un mensonge, mais un mensonge qui mine la fiabilité de la parole de Dieu. Il jette le doute sur la parole de Dieu. Il jette le discrédit sur Dieu et sur sa parole. Il ment en ce qui concerne les conséquences de la désobéissance. Et il laisse sous-entendre que Dieu les prive de quelque chose de bien meilleur, n'est-ce pas? Et que finalement, ils manquent de connaissances, alors qu'ils peuvent jouir de toute la connaissance. Et par là même, il met en doute la bonté de Dieu en prétendant que Dieu restreint leur liberté. Finalement, vous n'êtes pas libre avec ce que Dieu a prévu pour vous. Il suscite en eux l'orgueil en leur promettant qu'ils deviendront comme Dieu. Voyez l'objectif subtil, n'est-ce pas, du diable, et même masqué qu'il utilise, c'est d'amener Adam et Ève à refuser le statut de créature dépendante du Créateur, de créature dépendante de Dieu. C'est de les séparer du Créateur et de faire d'eux finalement des rivaux de Dieu en leur faisant croire à la possibilité d'être indépendant de Dieu, n'est-ce pas, de vivre à leur guise, d'avoir le pouvoir et l'intelligence. Quelle folie, n'est-ce pas? Quelle folie de vivre sans Dieu. Quand on se détourne de Dieu, on le voit très bien, on se tourne vers le mal. On se tourne vers le mal. Alors que vont-ils faire? Leur choix, je dirais, ne porte pas seulement sur le fait de manger ou ne pas manger du fruit défendu, mais avant tout sur celui d'obéir ou de désobéir à Dieu. De rester attaché à Dieu ou se détourner de lui. C'est ça le vrai enjeu. Ce qui est sûr, c'est que s'il cède, ce sera la catastrophe parce que Dieu l'a annoncé, n'est-ce pas? Les conséquences annoncées, la mort et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Dieu ne ment pas. Le verset 6 explique le pas de plus qu'Ève va faire. Donc, il y a un cheminement dans la tentation et dans la chute, n'est-ce pas? Après avoir écouté le serpent, au lieu de dire stop, elle va en quelque sorte alimenter la tentation par le regard qu'elle va porter sur le fruit défendu. Ève vit, dit le verset 6, que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Un commentateur disait à propos de cette tentation que la tentation d'Ève ouvrait la porte à toutes sortes de convoitises, et notamment à trois convoitises dont l'apôtre Jean parle dans sa lettre, convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie. Aujourd'hui encore, nous trouvons quotidiennement, n'est-ce pas, les facettes de ces convoitises et de cet orgueil de la vie, n'est-ce pas, lorsque, sans même nous en rendre compte, nous, et souvent, n'est-ce pas, avec les meilleures intentions du monde, nous aussi, nous, nous tombons dans cette sorte de convoitise, nous nous mettons à la place de Dieu et nous pensons être capables de tout faire sans Dieu. Ève écoute les paroles du tentateur, elle regarde l'arbre, le fruit défendu. Va-t-elle succomber? Va-t-elle croire au mensonge du diable? Va-t-elle accepter de mettre en doute la parole de Dieu et de mettre de côté la confiance qu'elle avait jusque-là au Créateur? Va-t-elle mettre en doute la fiabilité de la parole de Dieu? Va-t-elle convoiter ce fruit défendu? L'apôtre Jacques dit que la convoitise enfante le péché. Il y a un cheminement. La convoitise enfante le péché. Va-t-elle pécher? Hélas, oui. Hélas, oui. La fin du verset 6 dit qu'elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, rappelons ce que nous avons dit la dernière fois, c'était pour qu'ils puissent exercer leur liberté que Dieu avait placée dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en les avertissant, n'est-ce pas, du danger, des conséquences de manger à ce fruit, Dieu avait également donné la capacité finalement de choisir, de ne pas toucher ou de toucher. Or, Ève a choisi de désobéir et son mari avec elle. Au lieu d'affirmer haut et fort et avec joie leur dépendance, donc en tant que créature de Dieu, leur confiance en leur Créateur, en sa bonté, en sa fidélité, en sa bienveillance à leur égard, Adam et Ève choisissent de suivre les mensonges du diable et ils chutent en entraînant avec eux toute leur descendance. Même son mari, qui était auprès d'elle, nous dit le texte, n'est-ce pas? Le chef de famille, qui n'a pas su dire non, qui n'a pas su dire à sa femme « stop », n'est-ce pas? Même lui, il a suivi lâchement sa femme et il n'a pas résisté, il n'a pas dit non à ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Ils sont donc responsables tous les deux de leur décision. Mais finalement, quand on arrive au Nouveau Testament, on voit que c'est Adam qui porte la responsabilité collective de ce péché, de cette chute. Car dans le Nouveau Testament, il est surtout question du péché d'Adam, n'est-ce pas? Le premier homme, le premier Adam, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Donc c'est Adam qui porte la responsabilité de cette désobéissance, de cette faute. Il a laissé bafouer la parole de Dieu, la loi divine qui était bonne. Alors si le monde d'aujourd'hui se trouve dans la situation que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Nous savons maintenant d'où cela vient. Cela vient de nos ancêtres Adam et Ève. Tout le mal et toutes les souffrances que l'humanité endure jusqu'ici, n'est-ce pas, viennent de là, de cette séparation d'avec Dieu depuis le jour où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont décidé de suivre leur voie, la voie que le diable leur a proposée. Le choix de désobéir à la loi divine, de passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Nous verrons la suite dimanche prochain. Nous allons lire dimanche prochain donc la fin de ce chapitre. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons conclure en disant que cette désobéissance va coûter cher à l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Mais elle va coûter cher surtout à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a pris notre mort, il a pris notre condamnation, notre malédiction pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions à nouveau avoir la bénédiction divine. C'est lui finalement qui est venu dans ce monde pour nous reconduire en quelque sorte à l'arbre de vie. Cet arbre qui permettait, n'est-ce pas, de vivre éternellement. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu le Père, ce Dieu qui avait donné l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui est venu dans ce monde pour nous permettre d'avoir une nouvelle relation avec Dieu, de nous réconcilier avec lui. En lui, nous avons la vie. Nous avons la vie en abondance, le pardon, l'amour, l'espérance, la joie, la paix, le repos et tant d'autres belles choses, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous sommes invités à prendre part au repas du Seigneur, à prendre le pain et la coupe. C'est une manière de célébrer ce message essentiel de l'Évangile, ce que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde pour nous sauver de notre situation de personnes séparées du Dieu créateur. Alors je vous invite, avant de prendre le pain et la coupe, à chanter « Fils de Dieu, je crois ». Parce que celui-là est le message fondamental, n'est-ce pas ? Je crois à ce que tu es venu faire pour moi ».